D'une certaine façon, au milieu d'un parasha commence une nouvelle partie de la Torah, cette partie de la Torah dont on a dit au premier mot de Sefer Bereshit déjà. Rachir avait l'opinion de ce Rav Yitzhak qui disait que la Torah, elle devrait commencer à Chodesh. Mais avant que on entre dans le vif du sujet, il y a encore trois makot, encore Arbe Choshech et Makat Bechorot, doivent encore être écrites ici dans le texte. C'est ce que le texte annonce ici. On nous parle au début de ces trois makot. Et surtout, bon, alors, ce qui nous intéresse plus directement, c'est la dernière qui est la paracha de Makat Bechorot, qui est celle qui va décider Paro à libérer les Bnei Israël. Donc on va se reporter à cette paracha-là, enfin au psukim qui concerne justement cette paracha de, enfin cette Makat Bechorot qui frappe les premiers-nés de l'Égypte après avoir lu donc Arbé et Rochère, les sauterelles et les ténèbres. Donc c'est le chapitre Yud-Alef, où Vayomer Hashem el Moshe, Od nega echad avi el pa'al paro ve'al Mitzrayim, achrechen yishalach etchem mizeh, etc. Donc voilà, j'ai encore une chose, encore une maca à envoyer sur Paro et sur l'Égypte, et suite à ça, il va vous chasser même d'Égypte. Alors, le commencement de cette maca de Horot, curieusement, ça parle pas directement de Makat Bechorot. Ça dit, Daber na beozne ha'am, parle au peuple. Shem dit à Moshe, parle au peuple. Ishalou ish maître ou visha maître outa, pour que tout homme, enfin, un homme va emprunter à son prochain et toute femme emprunter à sa prochaine, kli chesef ou kli zahav, les ustensiles d'argent et d'or. Et Hachem a fait en sorte que les Égyptiens soient d'accord, c'est-à-dire il a fait en sorte que les Bnei Israël trouvent grâce aux yeux des Égyptiens. D'une part, et d'autre part, le statut de Moshe Rabbeinu chez les Égyptiens a changé, c'est-à-dire que il n'est plus celui qui amène les makot, mais il est considéré par les Égyptiens, Aish Moshe Gadol Meod, Eretz Mitzrayim Bene Avde Paro Bene Ha'am. C'est-à-dire, à tous les niveaux de la société égyptienne, Moshe Rabbeinu est considéré comme un grand personnage, parce que tout le monde a compris que les makot ne viennent pas par une méchanceté, si on peut parler comme ça, de Moshe, mais ils viennent de la bêtise et de l'intransigeance, ou le côté complètement buté de Paro qui ne veut pas céder. Ok, ceci étant, je ne reviens pas sur le fait que cette histoire d'emprunter des kélim, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, le gars dit que Le mot qui est utilisé dit que chaque homme était auprès de son prochain et chaque femme de sa prochaine. Le Gaon dit que ça ne peut pas concerner les Égyptiens, parce que les Égyptiens ne sont pas nos prochains, dans la mesure où le prochain, c'est mon prochain dans les mitzvot. Et par conséquent, il faut dire, il faut expliquer, mais on l'a déjà fait plusieurs fois, qu'il s'agissait d'emprunter auprès des Bnei Israël, c'est-à-dire de fabriquer artificiellement des relations entre des gens qui n'en avaient pas vraiment, tellement ils étaient occupés à chercher leur souffle. Le monde était à bout de souffle. Et donc, on n'a pas, ils n'avaient pas le temps ou la possibilité jusque-là, ils n'avaient pas développé des relations. Parce que même maintenant où ça fait déjà quelques temps qu'ils ne travaillent plus pour Paro, ils sont plus sous cette pression-là, mais ils n'ont pas encore reconstitué ou constitué des relations entre eux. Et donc, on n'a absolument rien qui puisse en fait fonctionner comme un embryon peuple. En fait, on n'a pas de peuple parce que les gens n'ont pas de relation entre eux. Et donc le but de l'exercice, c'est premièrement de fabriquer des relations entre les Israël. Et on peut déjà dire que une partie du fameux butin qui a été annoncé comme conséquence de l'exil et l'esclavage en Égypte, annoncé à Abraham Avinu que finalement ils sortiront avec un grand butin. Une partie du butin, c'est d'abord le fait qu'ils se constituent en embryon de peuple. Ça commence par là. Le butin, c'est, on a l'impression, on est un peu trompé par le côté matériel qui s'exprime avec l'or et l'argent. Alors d'accord, il y a l'or et l'argent, mais l'essentiel n'est pas cela. L'essentiel, c'est les relations. Techniquement, on aura besoin d'or et d'argent pour reconstruire le Mishkan, pour d'autres raisons. Mais Hazal disent que les Bnei Israël se sont aussi déjà enrichis au moment de Makat Dam, puisqu'à ce moment-là, les Égyptiens, pour avoir de l'eau, ils étaient obligés d'acheter l'eau aux Bnei Israël. Sinon, tout ce qu'ils voulaient boire se transformait, même si les Bnei Israël leur avaient donné de l'eau, quand eux voulaient boire, ça devenait du sang. Donc, pour pouvoir boire, ils étaient obligés, pour avoir de l'eau, ils étaient obligés d'acheter. Donc, il y a un chazal qui dit que les Bnei Israël se sont enrichis au moment de la plaie Makat Dam, la première plaie. Ensuite, Hachem va répercuter aux Bnei Israël ce qu'Hachem lui a dit. Et Moshe dit au Bnei Israël, Ko amar Hashem, ainsi a parlé Hashem, Kachatzot alayla ani yotze b'toch Mitzrayim. En fait, Hashem avait dit à Moshe Rabbeinu que il allait frapper l'Égypte à minuit. Mais Moshe Rabbeinu ne dit pas au Bnei Israël qu'il allait qu'Hachem allait frapper à minuit, mais il dit Kachatzot. Kachatzot, ça veut dire à peu près à minuit, autour de minuit, autour de la minuit, de la moitié de la nuit. Pourquoi est-ce qu'il a ajouté Kachatzot? Parce que, en fait, Moshe Rabbeinu avait peur que les Bnei Israël, que les horloges de les Bnei Israël ne soient pas exactes et que ils aient l'impression que minuit est passé et que Hachem n'a pas frappé l'Égypte. Alors c'est déjà comme si Moshe Rabbeinu avait déjà anticipé l'erreur que vont faire les Bnei Israël au moment où lui va monter sur le Sinaï et où les Bnei Israël vont se tromper. Et ça, voilà ce qui a donné le veau d'or. Donc, c'est gravissime. Pour être sûr que les Bnei Israël ne fassent pas une erreur comme celle-là, il leur a dit pour à peu près à minuit. Comme ça, ils vont pas dire le temps est passé. Alors, Hachem va littéralement, c'est Hachem qui sort sur l'Égypte. Il va ani yotse de Toch Mitzrayim. C'est-à-dire, on utilise le mot Yetzia, mais ce n'est pas une Yetzia d'Égypte, ce n'est pas une sortie d'Égypte, mais une sortie qui est une entrée en Égypte. Comme si Hachem sortait de son lieu, d'un certain lieu, et il va entrer en Égypte. Et Ani Yotze Betor Mitzrayim. Et on connaît de la Gada que, effectivement, ce qui va se passer, c'est que c'est Hachem Bichvodo Baatzmo qui va frapper l'Égypte, et ce ne sera pas ni un malach, ni un shliach, ni qui que ce soit l'autre. Pourquoi? Parce que l'impureté d'Égypte était tellement forte que même si Hachem avait envoyé des malachim, peut-être les malachim ne seraient pas sortis indemnes du contact avec l'Égypte, avec la Touma, l'impureté égyptienne. Comme vous savez, les Bnei Israël vont sortir prématurément à cause de cette impureté égyptienne qui les a fait dégringoler, eux aussi. Ils sont maintenant tombés aussi au 49e degré d'impureté. J'ai un petit problème. Je n'arrive pas à faire entrer Madame Pia Cohen. Je n'ai que les messages. Ah, non. Sais pas ce qui se passe. Elle est dans la chambre. Non, elle n'est plus maintenant. Ok. Ok, donc. Les Israël avaient dégringolé au 49e degré d'impureté. S'ils avaient touché le 50e degré, il n'y avait plus personne pour sortir. Vous voyez maintenant au 49e degré, il n'y a que 20% pour sortir. Si on continue dans l'impureté, un peu plus bas, il n'y a plus personne qui sort. Et donc, même les malachim, même les shluchim d'Hachem, etc., ne peuvent pas y aller. Hachem doit, enfin, il y va si on peut parler comme ça, par lui-même. Et donc, la présence d'Hachem en Égypte sera tellement contradictoire, si vous voulez, avec l'état de la société égyptienne que Umet kol bechor be'eretz Mitzrayim. Ici, le texte dit, Hachem dit, moi je descends en Égypte et les prorotes vont mourir. C'est pas Il n'y a pas besoin de frapper, de frapper effectivement. La présence, le rayonnement, si on peut parler de Hachem, est tel que sur l'impureté égyptienne, les prorotes meurent. Tous les prorotes, à quelque niveau que ce soit, il y aura une énorme clameur. D'accord, suite à la mort, tout le monde meurt là-bas. Donc, et toujours, l'important, c'est la différence, c'est-à-dire que chez les Bnei Israël, il n'y aura évidemment pas de mort et rien du tout, même quoi que ce soit, il n'y aura absolument aucune chose qui pourrait laisser penser que ça a à voir avec la mort chez les Bnei Israël. Il n'y a absolument rien chez les Bnei Israël qui soit en rapport avec la mort. Et pourquoi? Le Ma'an Tedoun, pour que vous sachiez que Hachem, ça c'est déjà pour les Bnei Israël, pour que vous, les Bnei Israël, vous sachiez, Hachem fait une différence entre l'Égypte et Israël. Et il annonce, et mon cher Rabbeinu annonce que voilà, tous les serviteurs de Paro, et lui aussi d'ailleurs, ils viendront supplier, se prosterner devant Moshe, pour lui demander de sortir, sort, sort, quittez-moi, quittez l'Égypte. Effectivement, je sortirai. Donc ça, c'est tout ça, mon cher Rabbeinu l'a dit à Paro, va yetzé mim Paro bechor yaf. Et Moshe Rabbeinu est sorti de cette entrevue avec Paro en grande colère, en fait. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que Paro n'écouterait pas. Et la raison pour laquelle il n'écoutera pas, c'est parce que je vais l'aider à ne pas écouter pour pouvoir déployer tous les signes que je veux mettre, les signes de ma présence dans le monde, de ma toute-puissance, etc., en Égypte. Bon, on a fait, à Moshe Aaron, on a fait tout ce qu'Hachem avait dit de faire. Et on s'arrête, si on veut, dans l'annonce de ce qui va se passer. On passe pas tout de suite à la réalisation. Et dans le fameux chapitre Yud-Bet, qui est le grand chapitre, si vous voulez, de cette paracha de Bo, Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim l'mor. Hashem dit à Moshe et à Aaron, ils sont encore donc, on est en Égypte, et Hashem leur dit ce qu'on va dire ici, afin que eux le répercutent au Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodeshim, Rishon Hu, Lachem, Lechodshei Hashanah. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël, sur l'ordre d'Hachem, que voilà, ils ont un nouveau calendrier. Un calendrier qui commence au printemps. On est au mois de Nissan, c'est-à-dire on a un calendrier, là, le calendrier standard qui commence en automne, celui qui commence par Rosh Hashanah, avec le mois de Tishri, etc. Ce calendrier-là, il est toujours valable. Mais on est 6 mois plus tard et on est au mois de Nissan. Hachem dit, voilà, ce mois-là, ce mois dans lequel, le mois de Nissan, dans lequel nous sommes actuellement, pour vous, c'est-à-dire un calendrier spécifique pour Israël, ce mois-là sera le premier des mois de l'année. Et voilà, et de cette phrase-là, Achodesh Hazeh Lachem, on apprend la mitzvah, qui s'appelle mitzvah de Kiddush HaKodesh. C'est-à-dire, les Bnei Israël reçoivent à ce moment-là, alors il faut bien se souvenir de ce que les Bnei Israël, à ce moment-là, sont encore esclaves, formellement, de Paro. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ils ne seront vraiment libérés qu'au moment de partir, au moment de sortir d'Égypte. Ils sont encore esclaves. Et on a déjà dit plusieurs fois que on peut dire que la caractéristique de l'esclave, c'est qu'il n'est pas maître de son temps. Son temps lui est imposé par le maître. Le maître de l'esclave impose à l'esclave son temps. Et donc, ce qui est dit là au Bnei Israël, c'est vous allez maîtriser le temps. C'est-à-dire, bien sûr que le Shabbat pour se présenter tous les 7 jours, il y a Shabbat, mais le temps, disons, du calendrier, vous allez le maîtriser parce que c'est vous qui allez décider quand commencent les mois. Après, on aura encore d'autres éléments, parce que par la suite, on va dire que Pessah doit avoir lieu le Chodesh HaAviv, le mois du printemps, avec un calendrier lunaire. Pessah peut se promener à travers toutes les saisons. Qu'on prend 11 jours de retard par rapport au calendrier solaire. Et c'est le calendrier solaire qui est lié à la nature, à l'évolution au mûrissement, etc. Et donc, si on fait pas attention, si on corrige pas le calendrier lunaire, Alors, on a la même chose que ce que les musulmans ont avec le Ramadan, qui se promènent dans toute l'année parce que ils ont un calendrier purement lunaire. Et donc, les Bnei Israël vont recevoir un calendrier lunaire ici, ça change pas, mais avec plus tard une correction pour rattraper la nature, si vous voulez, l'évolution de la nature, et donc assurer que Pessah a toujours lieu au printemps. Alors on va le faire en ajoutant le cas échéant, et puis pour nous, ça, nous qui avons fixé le calendrier, on ajoute à peu près tous les 3 ans, on ajoute un mois supplémentaire. Donc on a pris 3 fois 11 jours de retard en 3 ans. Donc avec un mois, à peu près tous les 3 ans, un peu plus fréquemment tous les 3 ans, cette fois en 19 ans, quelque chose comme ça, on va rattraper l'année solaire, c'est-à-dire l'année de l'évolution de la croissance des végétaux, etc. Et tout ça, c'est les Bnei Israël qui vont le décider dans leur calendrier. Donc les Bnei Israël vont fonctionner avec deux calendriers en parallèle, en quelque sorte. On va pas changer Rosh Hashanah. On aura un Nissan qui est un début d'année, mais c'est pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah va rester le 7e mois d'après ça. La grande différence entre les deux calendriers, c'est que dans le calendrier, ça viendra ultérieurement, mais le calendrier qui commence en automne, il est formé avec des mois qui ont des noms, Tishri, Cheshvan, Kislev, etc. Le calendrier qui commence en Nissan, les mois n'ont pas de nom, ils s'appellent Chodesh, le premier, le deuxième, le troisième mois, etc. Par exemple, Tishri, d'après ce calendrier-là, c'est le 7e mois. Donc dans ce nouveau calendrier, les mois n'ont pas de nom, ils sont numérotés. Donc après cette première mitzvah, il y a dans notre paracha, hein, le paracha de Bo, il y a 20 mitzvot. Et il y en a 11 mitzvot négatives, si vous voulez. Tu ne feras pas, et 9 mitzvot positives. Elles tournent presque toutes autour de Pessah, autour du Korban Pessah, la façon de le manger, etc., et autour des matzot, la façon de manger les matzot, etc. Il y aura une ou deux autres choses, mais essentiellement, les 20 mitzvot tourne autour de ces deux problèmes du Korban Pessah et de la Matzah. Oui. Je sais pas, de toute manière, les noms des mois sont des noms qui ne sont pas, c'est pas des noms hébreux, c'est des noms dont on dit qui viennent de Babel, enfin, je sais pas si c'est de Babel ou de Perse, je sais pas, mais en tout cas c'est pas des noms. Tishri Cheshvan, ça c'est pas des noms. Mais on a gardé ces noms-là. Mais bon, la vérité c'est que ces mois-là ne sont pas annoncés comme un calendrier. On vit avec ce calendrier, avec ça, comme si c'était un espèce de calendrier universel. Je crois que tout le Moyen-Orient était à ce moment-là avec des calendriers lunaires. Parce que sinon, le calendrier solaire, c'est très arbitraire. On voit rien. La seule chose qu'on voit, c'est le calendrier, quelque chose qui permet de définir un calendrier lunaire. On a les phases de la Lune qui nous aident. Dans le Soleil, on voit rien. Et donc, immédiatement après avoir reçu cette indication que voilà, c'est le mois dans lequel vous êtes, c'est le premier mois de l'année, etc., immédiatement vient la première mitzvah c'est-à-dire une mitzvah qui concerne la préparation du Korban Pessah. Alors, donc, Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu et à Aaron d'abrou parler au Bnei Israël. Alors, c'est intéressant, je sais pas trop qu'en faire en réalité, mais quand Hachem a donné la mitzvah de la Chodesh Hazeh Lachem au Bnei Israël, le texte dit Vayomer Hachem el Moshe ve el Aaron, les morts. C'est une amira. Toujours amira, c'est la parole douce. Oh, oui. Vayomer. Alors que maintenant, on vient la mitzvah de mettre de côté un agneau à partir du 10, enfin, le 10 du mois. Et là, c'est marqué Dabrou el Bnei Israël. C'est de vous parler, vous leur parler durement, en quelque sorte. C'est un dibour, c'est pas une amira. Pourquoi est-ce que pour la première mitzvah, c'est une amira et pour que, et la première mitzvah plus technique, plus concrète, si on peut parler comme ça, immédiatement, c'est déjà un dibour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est remarquable. Enfin, c'est remarqué. Après, je ne sais pas quoi faire. Dabrou, El Kol Adat Israël, vous parlez et sur la première mitzvah, justement, il est dit à Moshe Rabbeinu et à Aaron seulement, les morts. Hachem leur parle à eux doucement et les morts. Vous allez dire, les morts, c'est aussi Amira. Aleph même, c'est les morts. Mais là, d'accord, là, on leur dit effectivement, Dabrou, parler. Sur la première mitzvah, on ne dit pas à qui ils doivent s'adresser, en fait. Lachem. Bon. Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron, il leur dit de répéter la chose, et il parle de vous. Il y a des pronoms qu'on utilisait. On ne sait pas du tout, à la première lecture, disons, du point de vue purement grammatical, on a l'impression que ça s'adresse à Moshe et à Aaron, ou qu'ils le redisent. Mais on ne dit pas à quelle organisation des Bnei Israël il s'adresse. Tandis que la mitzvah qui vient maintenant d'Abrou, c'est El Kol Adat Israël. Donc, parler, ordonner, donc, à toute Adat Israël. Adat, Eda, vous savez, on avait déjà dit, Eda, c'est un mot qui veut dire, traduit en général par communauté ou groupe, etc. Mais dans le mot Adat, vous avez, ça commence comme Ed, Aïn Dalet, c'est-à-dire une communauté témoignante. Voilà. Et maintenant, donc, vous leur parlez et vous allez leur dire, les morts. Le 10 du mois, de ce mois-ci, donc, ils prendront pour eux, donc, chaque homme prendra un sé, on va expliquer après que sé, c'est ou bien un agneau ou un cabri, un sé, un agneau, je vais garder mon agneau, le bet avot, c'est la baït. C'est-à-dire, par maisonnée, disons, il y aura un agneau. Et tout de suite, peut-être que la maisonnée ne sera pas assez importante pour manger un agneau, alors on s'adressera, on se mettra ensemble. S'il n'y a pas assez de gens dans la maisonnée en question, alors velakahu ushcheno akarov. Alors il prendra ensemble, il prendra avec son voisin. Le voisin qui est tout proche, il prendra l'agneau ensemble. Ils prendront l'agneau ensemble. Donc évidemment, l'agneau, il va falloir le calculer, c'est-à-dire acheter un agneau qui va permettre à toute la maisonnée d'en manger. On verra après combien il faut qu'ils en mangent. Alors, l'agneau en question, il doit être Tamim, Zahar, Ben Shana, c'est-à-dire un agneau sans défaut, mâle, 1 an. Et vous le prendrez, Minak Fasim ou Minaizim, c'est-à-dire, ce sera ou un agneau ou un cabri. Et vous allez le mettre en observation jusqu'au 14. Donc, du 10 au 14, il est en observation. L'observation, c'est pour vérifier d'une certaine manière, c'est ce qu'on fera par la suite aussi, quand on voudra apporter les korbanot, on mettra les korbanot en général en observation pour voir s'ils ne développent pas un défaut, un moum. Mais c'est aussi ça va être une provocation, parce que pendant 4 jours, l'agneau, il sera visible par les Égyptiens. Et ils vont demander, mais qu'est-ce que vous fabriquez avec cet agneau-là, attaché là au montant du lit? Il dira, ben, on va faire la shrita. Et comme l'agneau, il représente un animal sacré là en Égypte, et que les Égyptiens ne peuvent rien y faire, c'est une façon de montrer la toute-puissance des ordres d'Akadosh Baroukh. Le shachatou. Et on en fera la shrita, kol kal adat Israël, toute l'assemblée de cette communauté témoignante d'Israël, le 14 ben ha'arba'im, c'est-à-dire en fin d'après-midi du 14. La shrita. Et alors, on sait que par la suite, quand on amène des korbanot, il y a dans tout korban, disons, deux parties distinctes. Quand on fait la shrita d'un animal, on recueille le sang et on va faire avec ce sang des aspersions en direction du Mizbéach ou à Yom Kippour, en direction du Parochet, du rideau qui sépare le Kodesh du Kodesh HaKodashim, mais en général c'est en direction du Mizbéach. Des aspersions, c'est-à-dire avec l'index, on va jeter des gouttelettes de ce sang. Cette avoda-là, avec le sang, ce travail, c'est le travail qui va apporter dans les korbanot la kapara. Et ensuite, il y a un autre travail qui est le travail de la chair, de la viande. L'animal, on l'a bien sûr, on l'a dépecé, donc on a de la viande maintenant. Alors cette viande, selon les korbanot, elle sera ou bien complètement consumée, c'est-à-dire entièrement brûlée sur le misbéar, ou bien consommée, c'est-à-dire qu'elle sera essentiellement mangée par. Alors, quand c'est un korban khatat, ça sera mangé par les kohanim, et dans les autres korbanot, c'est les propriétaires du korban qui vont manger cette chair. Un tout petit peu de cette chair sera mise sur le misbéar et brûlée entièrement. Mais l'essentiel sera distribué, sera mangé par les kohanim ou les propriétaires. Et ce korban-là, ce korban pessah, là, parce qu'on est en train de décrire ce qui va s'appeler korban pessah, ce korban, avec le sang, on va faire quelque chose, et on va faire non pas une aspersion sur les autels, parce qu'il n'y a pas d'autel, on n'a pas fait la shrita sur un autel, on a fait la shrita comme ça, chacun dans la cour de sa maison, je vois. Alors on prendra le sang et on va en asperger les poteaux et les linteaux des maisons. Côté intérieur, pas côté extérieur, côté intérieur de la maison. Les maisons dans lesquelles on va manger finalement ce korban pessah, ces maisons-là vont être marquées par le sang sur poteau et linteau. Et on mangera la chair de cet animal, la viande, donc, cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit qui suit la fin d'après-midi du 14, donc la nuit du 14 au 15, on va le manger tzli esh, grillé au feu, ou matzot al morim, et avec matzot et des herbes amères. Comme ça que ça sera mangé. Alors, on a dit déjà tout de suite qu'il fallait le griller, mais on pourrait penser c'est un conseil, quoi. C'est bon à manger, peut-être meilleur si c'est grillé. Mais on dit, voilà, al tochlo mimenu, on ne peut pas en manger de cet agneau, na, ou bachel, mevushal, bamaim, ki im tsli esh. On n'a pas le droit de le manger autrement que grillé. On ne peut pas le bouillir, on ne peut pas le rôtir, etc. Il est obligatoirement grillé. Et bon, la façon dont on va le présenter sur le feu, c'est rochot al krav al kibbout. Bon. Tout était là, en quelque sorte. Et vous allez le manger et vous allez totalement le manger. L'ototiru imenu ad boker. Et donc, vous mangez ça la nuit et jusqu'au matin. Et au matin, il ne doit plus en rester. Et si jamais il en reste, c'est ce qu'on fait, on le brûle. Maintenant, ça c'est les indications sur l'agneau lui-même. Maintenant, la posture, comment est-ce qu'on va le manger? Les hommes, les femmes, les enfants qui vont en manger. Vekachatochloto. Vous allez le manger. Vous allez le manger sur le pas de la porte, en quelque sorte. Quand vous allez être déjà prêt avec vos ceintures, vos chaussures aux pieds, le bâton dans les mains, et vous allez le manger bechipazon. Vous allez le manger rapidement. Pessah pour Hachem. C'est un Pessah pour Hachem. Qu'est-ce que veut dire ici ce Pessah pour Hachem? Rashi dit Pessah pour Hachem, à Korban ou Karoui Pessah. Ce Korban, il s'appelle Korban Pessah. Hachem a dilug. Mais à Psicha, il s'appelle Pessah. Ça se réfère au passage par-dessus. C'est mieux rendu en Passover, en passant par-dessus les maisons. J'accadage beaucoup, mais d'Aleg, Bate Israël. Mibein bate mitzrim. Vekotsef, vekofetz, mi mitzri le mitzri, v'Yisrael emtsai nimlat. Donc, Akadosh Baruch Hu va épargner les maisons d'Ebnei Israël. Il va littéralement sauter d'une maison égyptienne à une autre maison égyptienne, et la maison juive, enfin, hébreu, qu'il y aura entre les deux, elle sera épargnée. On voit ici, dans ces descriptions, on voit que, curieusement, les maisons des uns et des autres étaient complètement mélangées. N'y avait pas de townships comme en Afrique du Sud, où on ne mettait pas les esclaves d'un côté et les maîtres de l'autre, avec interdiction des uns. Enfin, pour les uns d'aller dans le domaine des autres. Ici, curieusement, ils étaient très mélangés. Ce que l'on décrit ici, on passe d'une maison égyptienne à une maison égyptienne en sautant par-dessus une maison des Hébreux. Ve'atem, asu kol avodata. Toute la. Le service qu'on va faire avec ce Korban Pessah, tout le travail qu'on fait avec ce Korban Pessah, il faut le faire le Shem Shamaim. On va le faire pour Hachem. Et donc, on va copier ce qu'Hachem a fait. Derer dilug ou kfitsa, zecher lishmo shekaroui Pessah. Et vegam paska iska lachon psia. Je ne sais pas pourquoi Rashi ramène ça. Est-ce qu'il veut dire un pas? Il veut dire le pas, P-A-S, P-A-S-C, d'accord. Tu as donné Pascal, quoi. Pascal. Il dit, ça c'est un pas, c'est un pas, c'est la chose psia. Je ne sais pas, qu'est-ce qui nous ramène ici, Rashi, parce que c'est quoi, il parle du français, il veut expliquer que pourquoi ça s'appelle Pascal? Parce que Pascal, ça n'a rien à voir avec Pessah. Il y a un kouf dans Pascal. Il y a Pes, sa mère, kouf. Peut-être on peut lire aussi Pasque, Pâques, avec le sa mère pour le circonflexe. D'accord? Pâques, P-A-S, disons. Bon, ben, ça fait, à la fin, il met un aleph pour indiquer que ça finit par un E. Et donc, la Pâque, quoi, si on peut parler comme ça veut aussi dire psia, un pas. On fait un pas, quelque part, on passe par-dessus, une partie du terrain sur lequel on ne marche pas directement, quoi. Quand on fait un pas, passe toujours d'un endroit à l'autre en passant par-dessus une partie du chemin. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Vous, les Bnei Israël, vous allez faire ça. Et quant à moi, Hachem dit, « Va'avarti be'eretz Mitzrayim balayla zeh » et moi, je passerai dans le pays d'Égypte pendant cette nuit-là, Veiketi, là, on s'est marqué qui le frappait. Veiketi, chol bechor, beretz Mitzrayim, me adam vad behema, ou bechol Elohe, Mitzrayim, et seshvatim, ani Hashem. Donc, moi, je passerai en Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, humains et animaux, et je détruirai aussi toutes les divinités égyptiennes. Ani Hachem, je suis Hachem. Vaya Adam Lachem, on revient maintenant sur les Bnei Israël. Vous avez l'impression que ça se passe en parallèle. Vous faites le Korban Pessah et moi, je tue les prorodes d'Égypte. Et on revient maintenant sur ce que vous faites avec le Korban Pessah. Vaya Adam lachem leot alabatim asher atem sham veraiti et Adam pasachti alechem velo yevachem negev lemashkit ba'akoti beretz Mitzrayim. Et donc grâce au sang que vous aurez mis sur les maisons, je verrai ce sang et je passerai par-dessus les maisons. Et vous ne serez pas lésés, vous ne serez pas frappés par la mort des premiers-nés lorsque je frapperai, moi, en Égypte.
Quelle est la réalité profonde de ça? C'est-à-dire qu'elle nous sommes pourquoi?
C'est pour nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est à l'intérieur. Hachem dit, je verrai le sang, mais je verrai que vous avez fait le Korban Pessah. C'est ça que... Et donc, ce jour-là, pour vous, ce sera le Zikaron. Ce sera un souvenir. Vous allez fêter cette fête pour Hachem, pour toutes les générations. Ce sera une règle éternelle que de le fêter de cette manière-là. Et on continue. Et la fête en question, elle va continuer. Comment? Shivat Yamim Matzot Tochelu. Et pendant 7 jours, Ces matzot dont je vous ai dit qu'elles étaient mangées en même temps que le Korban Pessah, vous allez continuer de manger les matzot. Mais dès le premier jour, non seulement il faut manger les matzot, mais dès le premier jour, vous allez faire disparaître tout le vin de vos maisons, parce que toute personne qui mange du chametz ou du vin sera frappée de karet. Et ça, c'est interdit-là, de manger du chametz, mais il va durer jusqu'au septième jour. Le premier jour, ça sera Mikro Kodesh, ça veut dire une sainte convocation, c'est-à-dire ça fait un Yom Tov. Et le septième jour aussi. Kol Melacha lo ta'aseh, lo ya'aseh bachem, aucun travail ne sera fait pour vous ces jours-là. Sauf Asher Yachel, le Chonefesh ou le Vado Yasselachem. Sauf les choses qui sont nécessaires pour se nourrir. C'est Yom Tov, on peut cuire pour se nourrir. Ushmartem et Amatzot, et vous allez garder les Matzot, a priori, ça veut dire vous allez faire attention que les Matzot soient fabriquées comme elles doivent l'être, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas 18 minutes où la pâte est livrée à elle-même. Mais on va lire, Hazal vont lire ce pasouk là, qui matzot. On peut très bien le lire ushmartem mitzvot, c'est-à-dire vous garderez les mitzvot. Mitzvotechem, vous allez garder ce jour-là pour toutes les générations. Chukat Olam, c'est un décret pour toujours. Et ça commence toujours le premier mois, Be'arba Asar Yom la Chodesh Ba'erev. Premier mois, 14 au soir. Vous mangerez des matzot jusqu'au 21 du mois au soir. Et non seulement vous allez manger des matzot et pas du chametz, mais pendant 7 jours, Seor lo yimatzeh batechem, il n'y aura aucun levain, aucun chametz dans vos maisons. Kol ochel machmeset v'nichrata nefesh ha'i be'adat Israël. Parce que tout celui qui allait manger tout ce qui est chametz dans ces 7 jours-là, il sera puni de karet. Et que ça concerne non seulement les Bnei Israël, qui sont les descendants de ceux qui ont vécu ça aussi, mais aussi Baguer, aussi les convertis seront aussi astreints à cela. Bien que pour eux, on ne puisse pas dire que c'est un souvenir de famille, quoi, mais ils sont astreints de la même manière. Baguer ou Ben Ezra Haaretz, c'est le même statut, que ce soit des convertis ou des citoyens depuis toujours. Toujours, Kol Machmetzet Lotochelu, vous mangerez rien de Chametz. Il n'y aura pas non plus de. Dans toutes vos maisons, on mangera des matzot. Alors, évidemment, dans cette nourriture, première nourriture en quelque sorte, prescrite, il y a cette lecture que matzot, ça se lit aussi bien mitzvot. C'est-à-dire, dans le Sefer Torah, où il n'y a pas les points, il n'y a pas les voyelles n'y sont pas, ça, on peut lire ça aussi bien mitzvot que matzot. En quelque part, voilà, les matzot, c'est un pain prescrit, et donc, de façon générale, c'est le mot pour toutes les prescriptions, les mitzvot. Donc ça, c'est toute la théorie élaborée ici. Et immédiatement, le passouk dit, Vaïkra Moshe, Cholzikne Israël, il a appelé les anciens d'Israël, il leur a dit, Mishru Kulachem son le Mishpurotechem, Shachatu à Pasach. Il leur a dit de, voilà, d'arranger les choses pour que y ait que tout le monde apporte, fasse un korban Pessah. Alors, on dit aussi, comment est-ce que vous allez asperger, comment est-ce que vous allez badigeonner les poteaux et les linteaux avec le sang? Alors, le kartem, vous prendrez agudat ezov, vous prendrez un bouquet d'hysope, comme on dit, vous allez les tremper dans le sang et vous allez donc badigeonner poteaux et linteaux. Mais en plus, il y a encore une loi sur le Korban Pessah. Va'atem lo tetsu ish mi petach beto ad boker. Maintenant, pendant cette nuit-là, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous jusqu'au matin. Et Hachem, donc toi c'est Hachem, Moshe Rabbeinu qui dit aux anciens, pour qu'ils le disent à leur, dans toutes les tribus, interdit de sortir de la maison pendant toute la nuit. Et Hachem va frapper l'Égypte à ce moment-là, et il va voir les poteaux, linteaux, etc. Il va passer par-dessus, et il ne laissera pas celui qui tue les Égyptiens vous faire du mal. Alors, cette avoda, ce travail-là que je vous ai décrit, vous le ferez quand vous serez arrivé en Eretz Israël. Et alors, quand vous allez être en Eretz Israël, bon, il y a 40 ans qui ont déjà passé, et quand vous allez faire ça chez vous, ben, vos enfants vont demander à quoi tu joues. Et donc, qui omrou alechem bnechem, ma avodah azot lachem, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce? Alors vous leur direz, Zevar Pesach hu lachem, c'est un korban qu'on a fait pour Hachem, parce qu'il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte, et nos maisons, il les a sauvées. Et alors, quand ils ont entendu ça, le peuple s'est prosterné. Et ils ont fait comme Hachem avait dit de faire, comme il l'avait dit à Moshe et à Aaron, ils font exactement ce qu'on leur a dit de faire. Alors ici, on a la question, les enfants qui vont poser la question en Eretz Israël, quand vous serez arrivés en Eretz Israël. C'est-à-dire que ils connaîtront pas obligatoirement ce qui s'est fait. Alors il faudra répondre à leurs questions. Alors on répond à une question en disant voilà, on a fait ça parce qu'il s'est passé telle et telle chose. Donc on va raconter le passé. Mais si on va au tout début de la paracha, si vous reprenez sur les premiers psukim, Hachem dit au deuxième passouk de notre paracha, Hachem dit, voilà, il avait dit dans le premier, je relis le premier verset, Vayomer Hachem el Moshe, bo el paro, ki ani irbati et libo, et lev avadam, shiti ototayele bekirbo. Va parler à paro, etc. Et bon, alors, tout ce qui va se passer se passe parce que le man shiti ototai ele bekirbo. Parce que je veux appliquer, je veux manifester mes signes, je veux me manifester en Égypte, je veux que l'Égypte me voie ce que j'ai fait, etc. C'est une chose. Mais immédiatement, deuxième verset, c'est écrit, Ou le man, il y a une deuxième fonction de ce que je t'envoie pour dire à Paro et Paro va refuser, etc. Ben, ou le man te saper beosne vincha ou ven vincha, et ta charite alalti be Mitzrayim be tototai asher samtivam, vidatem ki ani Hashem. C'est-à-dire, il y a une deuxième raison pour laquelle Hachem veut qu'on continue les trois dernières makot. Parce que, dit Hachem, je veux que tu racontes à tes enfants combien je me suis moqué de l'Égypte. Ça veut dire que en réalité, ce que nous avons lu, où le texte dit, vos enfants vont poser des questions, vous allez leur répondre. Vous allez leur dire, il s'est passé comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui raconte sa guerre. Voilà, dans ma jeunesse, j'ai fait telle et telle chose, j'ai fait telle et telle excursion, j'ai fait la guerre, j'ai, voilà. Mais ici, en vérité, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est pas qu'on a fait quelque chose et qu'ensuite on va le raconter. Ça n'a été fait que pour qu'on le raconte. C'est-à-dire comme si le déroulé de la vie d'Ibn Israël à ce moment-là, donc, ou le devenir d'Ibn Israël est un devenir qui n'a été tel que pour qu'on puisse le raconter. C'est-à-dire, il y a un récit national, si on peut parler dans le langage d'aujourd'hui, il y a un récit national qui est fondamental. Et donc, pour que ce récit, on a presque l'impression que pour que ce récit national soit vrai, ben, voilà, je l'ai fait. Pour que vous racontiez pas les salades. Très souvent, les récits nationaux, ils sont pas vrais. C'est des choses qu'on a inventées pour justifier, pour raconter l'histoire de la tribu, l'histoire du peuple, etc. Non. Hachem a dit d'emblée, je fais ces choses pour que vous les racontiez. Oui, c'est ça, on fait toutes sortes de choses étranges pour que les enfants posent des questions. Alors, ce qu'on veut, c'est on veut susciter la question pour avoir l'occasion de raconter le récit national, en fait. Mais pourquoi? Parce que les choses en question, elles ont été suscitées déjà. Nous, on fait la même chose qu'Hachem. De même qu'Hachem, il a fait des choses pour qu'on puisse les raconter, et, ben, nous aussi, le soir du Seder, on va faire des choses étranges pour que les enfants posent des questions et pour qu'on puisse raconter. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'on fait, c'est la même chose que ce qu'Hachem a fait le soir du, le, nous on fait le soir du Seder, la même chose, évidemment, avec des guillemets de rigueur, que ce qu'Hachem a fait. Donc ça donne c'est quand même autre chose, quand on réfléchit, que simplement le Seder. Où on va raconter les choses qui ont eu lieu. C'est pas je raconte des choses qui ont eu lieu parce qu'elles ont eu lieu. C'est contraire, elles n'ont eu lieu que pour que je puisse les raconter. C'est tout à fait à l'envers. Je crois qu'il n'y a aucun peuple qui a un récit qui était fondamental, plus fondamental que l'histoire elle-même, et on a fait en sorte que les récits soient vrais, quoi, quelque part. Et Hachem l'a dit, il a annoncé, voilà, ce que je le fais pour que vous le racontiez. C'est la deuxième raison. Il y a une raison pour, je veux que l'Égypte comprenne que je suis Hachem, mais je veux que toi, l'Ibn Israël, toi, Israël, tu racontes. Tu as une fonction pour toi. Ça veut dire que ce qui a été demandé en son temps au Bnei Israël, ça a été demandé parce qu'on veut pouvoir le raconter. Ça veut dire que toutes ces choses-là n'ont eu lieu que parce qu'elles sont l'expression de quelque chose qu'Hachem voulait que cette chose-là fasse partie de la pensée juive. À tout moment. Or, le point fondamental, on peut dire quelque chose d'absolument fondamental, qui pourrait caractériser ce qu'on a fait, toutes ces mitzvot qu'on a faites en temps réel en Égypte, à ce moment-là, c'est quoi? Ce qu'on voit, c'est que tout doit se faire le chipazon. Tout doit se faire rapidement. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps perdu. Il n'y a pas de temps libre. On est tout le temps sur la brèche. Les Bnei Israël, tout ce qu'ils font là, c'est au galop. On n'a pas le temps de faire du pain. Il faut sortir rapidement. On n'a pas le temps de se préparer, etc. Il faut manger le Korban Pessah. On peut pas s'asseoir, ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir. Vous allez le manger debout quasiment avec votre bâton et vos chaussures aux pieds, la ceinture aux reins. Vous êtes prêt à partir enfin, sur le. Est-ce que c'est quoi?
C'est pendant Moshe qui a ralenti la sortie. Il y avait une raison. Mais là, quand vous parlez du temps, tout accéléré, là, au contraire, Moshe ralentit, on
Quand?
sortira plus tard.
Quoi? Non.
Moshe a ralenti, il a pas envie de sortir de lui,
Ah
il
non,
a
parce
fait.
qu'il y avait une leçon, c'était une leçon. C'est pas, tout va très très vite, mais il faut donner le temps à Paro pour faire tout ce qu'on veut. Il a dit à Paro, maintenant je veux que tu déclares que les Bnei Israël sont libres. Ça prendra le temps que ça veut. Je ne partirai pas avant et on va pas partir comme des voleurs non plus. Ça, c'est autre chose. Et ce que les Bnei Israël font, c'est dans le Korban Pessah, etc. C'est tout est fait très très rapidement.
On doit retenir une leçon pour nous, ça, en dehors du Corban Pessah. Ça nous parle, ça, le côté pression.
Israël, ils sortaient, ils avaient rien, ils n'étaient pas pressés à ce moment-là. Ils travaillaient pas. C'est pas qu'ils étaient, on va économiser quelques coups de fouet qu'ils vont pas recevoir. Ça fait déjà des mois qu'ils travaillent plus pour les Égyptiens. Le Rambam, il a écrit évidemment une Agada. Et dans sa Agada, avant toute chose, il dit qu'il faut faire une déclaration générale. Déclaration générale, c'est Bibilou Yassanu Mimitsraïm. Bibilou, ça veut dire dans la Béhala. On est sorti d'Égypte dans la presse. Bon, c'est une espèce de déclaration avant tout le Seder. On fait cette déclaration. Alors, il paraît que les seuls qui font, enfin, ceux qui disent vraiment ça aujourd'hui, c'est les Thémanim, parce que les Thémanim, eux, ils suivent le Rambam en général. Mais les autres, les Sfardim, ils disent autre chose avec le plateau. Ils disent être molle ou quelque chose comme ça. Et les Ashkenazim, ils disent rien. Ils disent rien du tout. Mais bon, on entend bien l'importance de dire Bibilou. Bibilou Yassanu Mitzrayim, c'est comme cette phrase du Rambam, elle est très intéressante. Elle dit que voilà ce que je voulais que, parce que tout s'est déroulé Bibilou, dans la Béhala, dans la presse, à ce moment-là, alors il faut déclarer alors, qu'est-ce que ça vient dire? Pour Rambam, le fait qu'il faille dire cette chose-là, au même titre qu'il faille manger le corban de cette façon, etc., il faut, oui, cette déclaration, elle est constitutive de la Haggadah. C'est pas un truc pour faire joli. C'est constitutif. Alors, comme, en fait, on a ça qui s'exprime dans les matzot qu'il faut faire rapidement, sinon ça devient chametz. Le korban pessah, il faut le manger rapidement, sinon ça devient notar. C'est le matin, si on n'a pas fini. Ou même ceux qui disent qu'il faut le manger. Il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Akiva, il dit, on a jusqu'au matin, comme le texte le dit ici. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, il dit qu'on a seulement jusqu'à Hatzot pour manger le Korban Pessah. Donc, il y a beaucoup de gens qui font attention de faire le soir du Seder de finir avant Hatzot. Et si c'est pas tout, mais au moins de manger l'afikomen avant Hatzot, ou bien même si après il y a encore, tout n'est pas complètement fini, mais au moins ce morceau-là, puisque l'afikomen ça représente le Korban Pessah.
Excusez-moi, j'ai une question sur le passouk, si vous m'entendez.
Oui.
Quand Hachem il dit Vayaki Yomru Alechem Benechem, Ma Avoda
Oui.
Azot Lachem, c'est une des questions d'un des quatre fils dans la Haggadah, mais on lui reproche la question. Pourtant, c'est la question qu'Hachem il a anticipé qu'ils allaient dire.
Oui, vous avez raison. Ces questions-là, en plus, c'est une question de Avoda Azot Lachem. C'est la question du rachat. Et donc, c'est ça le problème. C'est
Exactement.
pas seulement une des questions, une des façons, mais c'est vraiment la mauvaise façon de poser la question. Vous avez raison. Probablement que ça dépend du ton sur lequel c'est dit. C'est-à-dire que les enfants posent la question parce que ils sont étonnés. Ils sont étonnés parce que pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils posent la question? Parce qu'on est en Eretz Israël, et donc on a déjà oublié. Bon, de facto, il y a au moins 40 ans de promenade dans le désert avant d'arriver en Eretz Israël. Jusqu'à ce qu'on pose des questions, ça fait encore 14 ans de plus, 7 ans de conquête, 7 ans de partage de la terre. Donc ça fait presque 60 ans peut-être que ça a eu lieu. Alors bon, ils le savent pas, ça leur dit rien, ils comprennent pas pourquoi on fait ça. Là, on dit le rachat, vous avez raison, a priori, celui qui pose cette question-là, il le fait sur un ton lachem, c'est-à-dire en vérité, toi tu poses aujourd'hui cette question, et cette question tu sais très bien en fait, la question n'est pas une question pour savoir qu'est-ce que vous faites, c'est une façon une façon méprisante de dire à quoi vous jouez, c'est des bêtises. C'est à ce titre-là que donc là, je crois que c'est le ton sur lequel. Le ton, et puis le fait que celui qui pose les questions, il a appris que voilà la mitzvah on lui a enseigné c'est un enfant auquel on a enseigné. Ici, quand ils disent vos enfants vont poser la question, peut-être ça veut dire effectivement ceux qui sont pas au courant, il faudra leur dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire leur dire bien clairement pourquoi on fait ça. Et dans le pourquoi on fait ça, c'est-à-dire leur expliquer que Hachem n'a fait ça que parce que, pour que tu poses la question, pour que j'aie l'occasion de te répondre, en fait. La question, elle est, si on attend vraiment une réponse, si celui qui pose la question, il attend vraiment une réponse, c'est très bien. Mais le rachat, à laquelle il attend une réponse. Répondre, mais tu réponds pas pendant que, bon, si toi t'avais été là-bas, tu ne serais pas sorti. Bon, parce que c'est le lachem, hein, qui dérange tout le monde. C'est un lachem, mais là, lachem, tu appartiens à ceux qui font ça, tu devrais le faire aussi, et tu prends de la distance, tu méprises, etc. Pardon? Oui, merci. Moi, C'est le ton méprisant qu'il y a dans l'affaire. Tandis que là, dans le verset, mais c'est sûr, c'est le verset ne dit pas ça. Le verset, il dit pas, il pose pas, il dit pas que la question elle est posée dans cet état d'esprit-là. Les Chachamim ont pris cette, ils ont décidé que puisqu'on en parle de quatre manières, alors bon, on va dire que ça c'est, il y a la possibilité de le dire avec un ton tel que ça convient au rachat. La phrase en elle-même, la question en elle-même, si c'est un guerre qui vient à la table et qui pose pourquoi est-ce que vous faites ça, qu'est-ce que c'est cet avocat, qu'est-ce que ça représente, ou quelqu'un qui a pas appris, il n'y a rien de mal à poser cette question. Pardon?
Le
Non, non, il est dans le texte. Oui. Non, parce que l'enfant, il comprend. C'est un enfant, donc il est à la table de ses parents et il voit que ses parents font des choses. Et il demande pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire, pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas pourquoi vous le faites. Expliquez-moi pourquoi vous le faites.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de que Hachem se moque de l'Égypte, le terme moquer?
C'est vraiment la meilleure traduction possible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement qu'Hachem a imposé les choses, mais il a montré, on a pris l'Égypte quasiment à son propre piège, en fait. C'est-à-dire que Hachem a montré toujours que ce que, sur tous les points où l'Égypte se pensait la civilisation dominante, etc., Hachem a montré que il pouvait absolument rien faire dans aucun domaine. Donc, je les ai quasiment humiliés, les Égyptiens. Ils ont, d'ailleurs, c'est un des mots qui est dit, Hachem dit à, ben c'est, oui, il dit à Moshe de dire à Paro, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de t'humilier devant moi? Bon, il le dit à Paro. Admatai, me'anta le'anot mipanai. Jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser le'anot? Rashi dit que ça vient du lachon ani, me'anta liot ani me'shafel mipanai. Jusqu'à quand tu vas refuser d'être comme un pauvre, comme quelqu'un qui est tout au bas de l'échelle devant moi. Donc il y avait un problème c'est la gava de l'Égypte, c'est-à-dire l'orgueil de l'Égypte qui était la puissance de l'époque, puissance probablement militaire, culturelle, etc. Et Hachem dit, il faut que je vais me moquer de, vous pensez que vous êtes les maîtres à tous les domaines, je vous montre dans tous les domaines. Je me moque de votre prétention à être les meilleurs, à être au sommet.
La chaîne d'attaque dans la dimension presque divine, vous les tenez par où?
Oui, bien sûr.
Parce qu'à Moshe, il a dit à Aaron, il leur a dit au début, pour voir par où, il parlerait avec beaucoup de respect pour
Alors, c'est ça. On va parler à Paro. Les Bnei Israël ont reçu l'ordre, enfin, Moshe et Aaron ont reçu l'ordre de ne pas humilier par leurs paroles, Paro, mais Hachem reproche à Paro de ne pas s'humilier de lui-même, de ne pas comprendre la démonstration. Je te fais une démonstration, tu devrais comprendre les choses, et tu ne veux pas comprendre. On va pas se contenter de t'humilier en te parlant, puisqu'on est intouchable, etc., on va pas te traiter de moins que rien, etc. On va te dire, oui, Votre Altesse, etc., tout ce que tu veux. Mais toi, tu dois comprendre que même si on te parle comme ça, sache que c'est comme ça qu'on te parle parce que tu es de facto l'empereur d'Égypte, mais toi, devant Hachem, tu dois te t'écraser.
sa dimension.
Il comprend
D'accord.
pas. Il comprend pas. Et donc, il a l'altitude, c'est-à-dire, je me moque de ses prétentions d'être vraiment. Il se prend quand même. Finalement, il se prend comme Dieu, quoi. Et pour Dieu, c'est
Mais
une divinité.
comment
Oui.
ça se fait que c'est Hachem qui parle ainsi, parce que Hachem dirige le monde et qu'aucun homme puisse parler de cette manière-là. Oui, mais Hachem, c'est comme s'il se rabaissait au niveau de Pharaon pour lui expliquer qu'il se moquait. C'est un peu bizarre cette situation.
Non, Hachem veut, comme Paro, il se prend pour une divinité, Hachem lui dit, jusqu'à quand est-ce que tu vas te prendre comme une divinité face à moi? Je veux dire, moi, devant moi, tu devrais comprendre. Il y a une posture normale. Devant Hachem, tu peux pas continuer de raconter, de t'imaginer que tu es vraiment une divinité. Même si tu joues ce rôle-là, par rapport à des gens autour de toi, mais pas devant Hachem.
On doit reconnaître Hachem. Ce qu'il demande, c'est qu'il le reconnaisse pas en parole comme il a fait avant, mais qu'il le reconnaisse. C'est une vision de hiérarchie. Il faut
Non,
qu'il
mais
reconnaisse
justement,
au-dessus.
mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que toi, tu te prends pour une divinité.
Non, je comprends.
Tu dois comprendre que devant moi, tu n'es pas une divinité.
Et vous, c'est entendable, audible, qu'Hachem, que Pharaon aurait pu le faire disparaître. Lui demander de reconnaître Hachem, d'être sa tête et tout, c'est disparaître.
Non, c'est pas disparaître, justement.
Mais
Justement, je crois que c'est pas juste. Parce que ce qu'Hachem demande, il ne demande pas qu'on n'existe pas.
nous, mais pour Paro.
Devant, ni Paro, personne. Tu n'existes pas, c'est-à-dire, tu n'existes pas devant moi. Mais maintenant que tu existes devant les autres hommes, ça me dérange pas.
Je pense que c'est ça parce que Paro a éprouvé le besoin de tricher. Quand, avec les eaux du Nil et tout ça, après, avec, il a menti avec Yosef après tout ça pour, parce qu'il défendait sa position imaginaire. Lui-même, il sait. Donc, ça, c'est comme un faux adulte à qui on vient démontrer qu'il raconte des salades.
Non, mais justement, on lui demande seulement, Hachem lui dit, Mipanaï, devant moi, tu dois t'écraser. L'être humain, il doit effectivement s'écraser devant Hachem, mais pas s'écraser devant les autres, parce que si quelqu'un qui s'écrase devant tout le monde, alors il ne s'écrase pas spécifiquement devant Hachem. Où est-ce qu'on est là? Oui. Ben, Annie, non?
Non, c'est le temps de
Oui.
demander
Manger dans la presse ici, ça veut dire que comme ce qu'il mange, c'est une avoda, c'est un service d'Hachem, c'est-à-dire c'est une mitzvah, les mitzvot, ça doit se faire rapidement. Martem est un matzo, est un mitzvot, les garder. Et puis il faut faire, il faut pas laisser. Qu'est-ce que c'est la shmira des matzot? C'est vérifier qu'elles ne deviennent pas hametz. Alors on dit, quand il y a une mitzvah qui se présente à toi, fais-la rapidement de telle sorte qu'elle ne devienne pas non plus hametz. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas tout de suite, il peut y avoir plein de dérangements qui éventuellement te laisseront pas, te permettront pas de la faire la mitzvah. Tu l'as fait tout de suite, c'est fait. Et tu l'as, oui, je la ferai dans un quart d'heure, une heure. D'ici là, il peut se passer tellement de choses qui peuvent t'empêcher de faire cette mitzvah que tu voulais vraiment faire. Alors, je crois que c'est pas le temps de la faire. C'est vrai que on pourrait penser que je crois, si vous voulez, que tout ce qui est de l'ordre de la préparation de la mitzvah, vraiment, c'est inclus dans la mitzvah. Donc, on ne va pas dire que si on a besoin de se préparer pour faire la mitzvah, On va pas dire, mais là, tu perds du temps, fais-la sans préparation. Non. La préparation de la mitzvah, elle appartient à la mitzvah. Le temps, il commence à compter. Tu es déjà en train de faire la mitzvah dès que tu te prépares.
C'est fortement le temps qui ramène.
Pardon?
Il faut préparer la correspondance
Oui,
du
oui,
temps
oui.
qui ramène.
C'est ça. OK. Bonsoir.